to money.
And she be karashika, and she go give you fever. If you look into her eyes, you go notice she's a wizard.
I say be fire on her, you dey go see wall. Get another girl, walk, get another girl, jump.
Stop lying, you like go fiki somebody. The way you do, I don't fish that though. You like go fiki somebody. Oh my God, stop lying. You know I love you, my darling. The way you do, I don't fish that though. You like go fiki somebody. Oh my God,
yeah, I love you. Even when I don't say it alive, no. Yeah, I miss you. Even when I don't say it alone, no.
So now because of Jennifer, now she did.
Bonjour à toutes et à tous au sommaire de ce journal. Promotion des droits de l'homme, 75 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quel bilan des droits humains en Afrique? C'est le thème d'un colloque international sur les droits de l'homme qui va se tenir les 8 et 9 décembre prochains à Abidjan. Les précisions de Linda Bali en début de ce journal. Initié par le gouvernement ivoirien et exécuté par l'Office du volontariat du service civique, le programme spécial de la lutte contre la fragilité dans la zone nord est désormais officiel. Le lancement du dit programme a eu lieu récemment à Odiené. Hors de nos frontières, la Mauritanie et le Tchad ouvrent la voie à la dissolution de l'alliance antiterroriste G5 Sahel. Et pour finir, Jean-Claude Comé recevra comme invité de la rédaction Dr Germain Cramo, l'enseignant en économie. Il nous en dira un peu plus sur les tarifs douaniers entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne et les implications de cette décision pour l'économie ivoirienne prévue en fin 2024. Voilà pour l'essentiel. Bienvenue à toutes et à tous. Vulgarisation des droits humains. 75 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Centre de recherche et d'action pour la paix, CERAP, et l'Université jésuite organisent un colloque international pour faire l'évaluation des actions et avancées obtenues durant ces 75 ans, particulièrement pour l'Afrique. Placé sous le thème 75 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme, quel bilan des droits humains en Afrique? Ce colloque, en partenariat avec le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, et le MISIO, se tiendra dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'homme prévue le 10 décembre 2023. En prélude donc à ce rendez-vous de réflexion, les initiateurs de ce colloque international étaient face à la presse le mercredi 29 novembre dernier pour sa présentation. Suivons le compte-rendu de Linda Balier.
Avant d'en arriver au vif du sujet, le père fidèle Ngemié Béré revient succinctement sur l'historique de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
3 ans juste après la création des Nations Unies, en 1945, ces Nations Unies affirmaient leur foi dans les droits de l'homme et elles mettaient en place une commission qui allait étudier cette question des droits de l'homme. Donc elle a dû travailler pendant 3 ans pour qu'en 1948, il y ait cette Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris. Au niveau local ou au niveau régional, on a commencé aussi à régionaliser cette idée de proclamation des droits de l'homme.
Cependant, 75 années après sa signature, quels sont les rôles et impacts de cet instrument de l'ONU pour l'Afrique ou la place de la déclaration des droits de l'homme dans les politiques africaines? Autant de questions auxquelles les experts nationaux et internationaux répondront autour de quatre axes présentés par le père Fidèle Nguémié-Béré.
Le premier axe, nous voulons une évaluation qui réexamine les fondements. Le deuxième axe va se pencher sur les politiques africaines et des droits de l'homme. Et puis le troisième axe, c'est le contentieux des droits de l'homme. Le dernier axe sera sur la protection catégorielle des droits de l'homme.
Et représentant la présidente du CNDH, Okoulé Gré-René, a adhéré à cet atelier de réflexion assurant l'accompagnement de son institution.
Nous avons, en tant qu'institution nationale des droits de l'homme, adhéré à ce projet quand on nous a sollicité parce qu'on a jugé de l'opportunité, de la pertinence de ce projet qui rejoint nos attentes et qui s'inscrit dans la dynamique de notre action.
Signalons que ce colloque international est prévu se tenir les 8 et 9 décembre 2023.
Nous le disions en titre, le programme spécial de la lutte contre la fragilité dans la zone nord de la Côte d'Ivoire, initié par le gouvernement ivoirien et exécuté par l'Office du volontariat du service civique, est désormais officiel. Le lancement du dit programme a eu lieu récemment à Odiéné. Ce programme, qui consiste à occuper sainement les jeunes en milieu rural, devrait s'étendre aux sept régions du Grand Nord. On en sait un peu plus avec Bakary Touré-Labasse, notre correspondant dans la région du Kabadougou.
Le programme spécial de la lutte contre la fragilité dans la zone nord de Côte d'Ivoire, initié par le gouvernement et exécuté par l'Office du service civique du volontariat, vient d'entrer dans sa phase active. Que vise donc ce programme? Élément de réponse avec Tano Kofi Antonio, sous-directeur à la direction du volontariat de l'Office du service civique.
L'Office du service civique est ici aujourd'hui pour former des jeunes volontaires dans le but d'apporter la quiétude, la cohésion sur les zones frontalières. Et c'est un programme qui tient beaucoup au cœur du chef de l'État et au ministre de la Jeunesse, ministre Mamadou Touré.
L'oisivité étant la mère de tous les vices, ce programme, selon Tano Kofi, consiste entre autres à occuper sainement les jeunes de la bande nord.
La formation que nous faisons va permettre aux jeunes d'appuyer les structures étatiques ou bien les structures officielles qui sont chargées de gérer toute la zone frontalière.
Et réaction deux participants.
Traoré Aboubakar Sédic, nous sommes déplacés de Bélévent. Dès notre retour, vraiment la ville de Bélévent va sentir les jeunes bénévoles.
Gabi Yaya, le département de Somatigla.
Quelqu'un qui est du volontaire, qui a montré son amour pour un truc. Quand les bénéfices arrivent, il faut aller derrière ce dernier. Ça aussi, ça le motive.
Et celui-ci d'interpeller.
Mais on ne peut pas avoir des gens qui faisaient sans rien démasser. Et puis aujourd'hui, quand on voit qu'il y a une rentabilité, on va prendre des gens, les fabriquer, les venir les déposer. Il y a ce problème-là qui existe chez nous aussi.
Démarré par la ville de Diéné, ce programme devrait s'étendre aussi aux autres régions du Grand Nord. Bakary Touré-Labasse, au Diéné, Radio de la Paix.
Parlons à présent de réduction de la violence en milieu scolaire. Le Razalao Côte d'Ivoire, le réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire, organise demain jeudi 7 décembre la deuxième édition de la Marche Blanche contre les violences en milieu scolaire. Pour cette année, c'est la ville de Bouaké qui accueille l'événement dont nous parle ici Ntaye Aka-Victorien, le président du Razalao Côte d'Ivoire.
Une marche blanche parce que ces trois dernières années, nous avons constaté que, en milieu scolaire, il y a l'expansion des bagarres rangées entre élèves, bagarres rangées entre écoles, bagarres rangées entre élèves et des individus non identifiés. Mais à côté de cela, il faut ajouter les manifestations au congé anticipé que les élèves s'entendent ces dernières années. Et c'est récurrent, en dehors de l'année dernière où ça a été moins. Mais également, il faut noter que dans ces différents actes que je viens de citer, il y a toujours mort d'homme. On enregistre toujours la perte en vie humaine d'un élève. On a vu le 3 décembre 2021 à Issia, lors de manifestations liées au congé anticipé, un élève a perdu la vie, poignardé par ses camarades. Le 22 novembre 2022, à Bouaké, deux écoles se sont affrontées. Un élève également en a perdu la vie. Vous voyez, ça fait de trop. Sans toutefois oublier les actions, les agressions que les élèves subissent de la part de leurs amis élèves, mais également les menaces conférées contre leurs encadrés qui sont les éducateurs, les professeurs, le corps enseignant. Et cela, dans plusieurs exemples que nous avons, et ça nous interpelle.
Nous venons d'écouter Ntaye Aka Victorien, le président du Razalao Côte d'Ivoire. Depuis ce 29 novembre 2023 et ce jusqu'au 7 décembre, le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle, en abrégé CIDFOR, à travers sa campagne d'exposition-vente de livres techniques et professionnels, dénommée le livre technique de proximité, veut promouvoir les écrits du corps enseignant dans les lycées techniques et professionnels de Côte d'Ivoire. Cette campagne a démarré par le lycée multisectoriel Mohamed VI de Yopougon, en présence de son partenaire canadien de l'Association nationale des éditeurs de livres du Québec. Suivons le compte-rendu de Jean-Mylène Bitty.
Susciter de l'engouement au niveau des enseignants et des apprenants à travers une campagne d'exposition-vente dénommée le livre technique de proximité est l'objectif visé par le CIDFOR. Sur cette campagne, Khadija Diallo, directrice du CIDFOR.
Éditer des livres écrits par des professeurs ivoiriens de l'enseignement technique de la formation professionnelle, édités par des éditeurs ivoiriens, le concept, on se rapproche des établissements scolaires, des enseignants, des élèves. Parce que c'est vrai qu'on fait des activités, mais tout le monde n'a pas l'information. Nous avons décidé de nous rapprocher du milieu de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.
Représentant le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Akodjoa Lukounzou, inspecteur de l'enseignement technique, revient sur les retombées de ce projet.
La plus-value, c'est encore de nouvelles données d'apprentissage et non seulement cela, mais des ouvrages. Et chaque apprenant pourra acquérir un ouvrage pour encore parfaire son apprentissage.
Dans le cadre de cette campagne, le CIDFOR a reçu l'appui du gouvernement du Québec avec plus de 200 ouvrages canadiens basés sur la formation par compétences. Frédéric Saint-Julien de l'Association nationale des éditeurs de livres du Québec.
Un partenariat avec le CIDFOR dans le but de doter les bibliothèques de livres de formation technique qui sont reconnus pour justement l'approche par compétences. Évidemment que ces ouvrages-là aussi ont été évalués en Côte d'Ivoire pour s'assurer qu'ils répondaient aux attentes des centres de formation technique.
Débuté par le lycée Mohamed VI de Yopougon, cette campagne prendra fin le 7 décembre prochain avec l'étape du lycée professionnel des métiers de la mécanique et de l'électricité de Kumasi.
Rendons-nous maintenant à Bouaké pour parler de transition écologique. 30 participants issus de sociétés coopératives agricoles de manioc de Bouaké ont été formés du 13 au 17 novembre dernier aux techniques de transformation des déchets du manioc. Cet atelier est financé par la France en collaboration avec le gouvernement ivoirien et l'Organisation internationale du travail, OIT, s'inscrit dans le cadre du projet La dimension sociale de la transition écologique. Démarré en 2021 pour une durée de 3 ans, ce projet qui s'exécute simultanément au Nigeria et au Sénégal encourage à la création d'emplois verts et à la promotion d'une économie circulaire. Le reportage de Joseph Assalé, notre correspondant régional dans le Bekin.
Cette formation des membres des sociétés coopératives de la filière manioc de Bouaké était plus axée sur la pratique. Ainsi, les apprenants ont été instruits à la fabrication de charbon, de gaz, d'engrais et de champignons, tous biologiques à base de déchets du manioc. D'où la création de potentiels emplois verts, selon Gourang Kofi Marcos, coordonnateur national du projet La dimension sociale de la transition écologique.
Il y a plusieurs emplois verts qui peuvent être créés. Vraiment, ce domaine peut rentrer dans une économie circulaire. On m'a dit même que pour produire le biogaz, il y a des asticots à un niveau qui peut servir à nourrir les poulets. Donc il y a quand même d'autres économies qui peuvent se développer en parallèle au traitement des déchets. Un exemple simple, on demande aux bûcherons de ne plus abattre les bois. Ça sauve des forêts. Mais ce qu'on oublie peut-être, c'est que derrière ce bûcheron, il y a une famille, il y a des enfants qui vont à l'école, il y a des loyers à payer. Donc la transition écologique juste voudrait qu'on propose à ce bûcheron un autre plan, que aussi tout se fasse dans un dialogue social.
D'autres avantages se greffe aux technologies enseignées aux participants qui en révèlent eux-mêmes quelques-uns dans la perspective de la protection de l'environnement.
Ça va permettre à nos végétations de pouvoir avancer.
1 kg de charbon écologique allumé peut faire une durée de 3 habitants, contrairement à 1 kg de charbon de bois qui fait tout au plus 45 minutes.
Le projet La dimension sociale de la transition écologique encourage à la création d'emplois verts et à la promotion d'une économie circulaire. Joseph Assalé, Bouaké, Radio de la paix.
Vie des institutions s'intéresse à l'engagement pris par la task force des parlementaires africains à Nairobi au Kenya en juin dernier. La plateforme des réseaux effetières de lutte contre le VIH-Sida fait la restitution à la commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. En ligne de mire, le plaidoyer pour l'accroissement des fonds alloués au domaine de la santé. Écoutons à cet effet Kwaku Dapa, membre du Parlement ivoirien ayant assisté à l'atelier du Kenya qui a mis en place la task force des parlementaires africains au sortir de la restitution.
Aujourd'hui, il était question de faire la restitution des travaux en atelier au niveau de Nairobi à la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale, de manière à ce qu'ils soient édifiés sur les enjeux de cette question, à savoir l'accroissement du financement domestique au niveau de notre pays, la Côte d'Ivoire, pour les questions de santé. Il y a une problématique qui est le désengagement progressif des bailleurs de fonds. Donc, il est important que l'État de Côte d'Ivoire accroisse sa part contributive de manière à ce qu'au départ de ces bailleurs-là, le pays continue d'assurer un système de santé efficace et efficient au bénéfice des populations. Et pour ce faire, il y a un point spécifique que nous avons évoqué, c'est celui des ASC, les agents de santé communautaire, qui jouent un rôle très important au sein de nos différentes communautés dans la lutte contre les différentes pandémies et qui sont un premier rempart au service de la santé des Ivoiriens. Donc il était très important qu'on évoque cet aspect spécifique de façon à ce que ces ASC aient un statut et qu'à partir de là, ils soient plus motivés parce qu'une population en bonne santé, c'est un bénéfice pour l'économie nationale. Donc nous avons fortement plaidé et les députés nous ont compris. Certains étaient déjà sensibilisés à ces questions-là et ils se sont engagés à accompagner dans le plaidoyer de façon à ce que les ASC aient un statut en Côte d'Ivoire le plus rapidement possible. Nous l'espérons dès le budget 2024 et d'une façon générale que les fonds alloués à la santé en Côte d'Ivoire soient accrus au bénéfice des populations.
À l'instant, le député Kwaku Dapa sur Radio de la Paix. Un mot de santé dans ce journal. Une conférence grand public sur le cancer de la prostate s'est tenue le vendredi 1er décembre dernier au CNRAO, au Centre National d'Oncologie Médicale et de Radiothérapie Alassane Ouattara à Abidjan-Cocody. Cette rencontre initiée par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle s'est déroulée autour du thème « L'évolution et les innovations sur le traitement du cancer de la prostate en Côte d'Ivoire ». Sur le dépistage et la prise en charge de la maladie, retrouvons Dr Traoré Kadi, elle est cancérologue au CNRAO.
Au Centre national d'oncologie médicale, il y a déjà un volet social qui est fait pour tous les patients. Même pour ceux qui ont des difficultés financières, aucun traitement n'est retardé. Tous les traitements se font. On voit avec les patients quelle est la façon dont ils vont pouvoir honorer leurs honoraires. On a même fait récemment une étude qui a vu que toutes les couches socio-économiques avaient pu recevoir tous les traitements. Il n'y avait pas de différence entre quelqu'un qui était aisé par rapport à l'autre. En fonction du stade de la maladie, quand quelqu'un est en traitement, on suivait l'efficacité du traitement. Et le plus souvent, c'est l'antigène PSA qu'on demande pour pouvoir surveiller. Nous sommes des cancérologues et le centre traite que les patients qui sont atteints de cancer. Les trois maladies principales qui touchent la glande prostatique, la prostate, on a l'adénome, c'est l'équivalent du fibrome chez la femme. Il n'y a pas de cancer, mais la prostate grossit. On a également la prostatite, qui peut être inflammatoire ou bien une infection. La troisième maladie, c'est le cancer de la prostate. Quand quelqu'un vient pour un dépistage, si c'est diagnostiqué précocement, les possibilités de guérison sont très élevées. Quand c'est des stades très précoces, on peut avoir recours à la chirurgie ou à la radiothérapie. Quand c'est des stades qui sont un peu évolué mais qui ne sont pas métastatiques, on peut faire la radiothérapie associée à une hormonothérapie. Et quand c'est les stades qui sont métastatiques, c'est-à-dire qui ont la maladie qui a quitté la prostate et s'est propagée un peu dans l'organisme, c'est le traitement systémique, l'hormonothérapie simple ou bien la chimiothérapie. Et il y a d'autres types de traitements également qui existent.
Docteur Traoré Kadi, cancérologue au CNRAO, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara d'Abidjan-Cocody. Sans transition, nous arrivons à l'actualité africaine. La Mauritanie et le Tchad ont ouvert la voie à une dissolution de l'alliance G5 Sahel créée en 2014 pour faire face au terrorisme et autres défis de la sous-région après le retrait des trois autres membres, Mali, Burkina Faso et Niger. La Mauritanie et le Tchad prennent donc acte de la récente annonce de retrait du Burkina Faso et du Niger après celle antérieure du Mali, disent les deux pays. Ils mettront en œuvre toutes les mesures nécessaires conformément à leur convention fondatrice, y compris celle relative à la dissolution, disent-ils, dans un communiqué publié ce mercredi matin par l'agence mauritanienne d'information. Nous passons à présent à l'invité de la rédaction et Jean-Claude Comé est en ligne avec Dr Germain Cramo. Il est enseignant en économie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il nous éclaire ici sur l'accord de partenariat économique entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. En principe, en 2024, selon l'une des décisions de cet accord, il n'existera plus de droits de douane entre le pays et ceux de la zone européenne. Sur les implications pour les entreprises ivoiriennes et l'économie de la Côte d'Ivoire, retrouvons Dr Germain Cramo en compagnie de Jean-Claude Comé.
Docteur Germain Cramo, bonjour.
Et bonjour, Monsieur Comé.
Il est question de la fin des tarifs douaniers dans les transactions entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Cela est prévu début 2024. D'abord, pour commencer, les tarifs douaniers, c'est quoi?
Effectivement, les pays échangent entre eux et durant ces échanges, il y a des tarifs qui sont appliqués pour plus ou moins protéger les pays et permettre aux pays aussi d'avoir des recettes douanières. Donc, ce sont des tarifs qui sont appliqués sur les différents biens qui sont importés des pays partenaires.
Et quelles sont les conditions, justement, qui peuvent amener deux pays ou deux zones économiques à éliminer ces tarifs douaniers-là?
Ok, dans le cadre de la coopération, certains pays peuvent décider de mettre fin à ces tarifs pour faciliter l'accès des différents biens sur les différents marchés. Et dans le cadre des accords régionaux, comme c'est le cas des pays de l'UEMOA, de la CEDEAO, les pays décident d'éliminer entre eux les différents tarifs, donc bien plus ou moins un accès libre à ces pays-là.
Alors concernant donc l'Union européenne avec les pays africains, on parle d'accords donc de partenariat économique, les APE. Justement, quelles pourraient être les conséquences de cette élimination pour l'économie ivoirienne?
Pour un bref rappel, il faut savoir qu'avant les APE, l'Union européenne et les pays d'Afrique et du Caraïbe et du Pacifique ont fait des accords qui facilitaient l'entrée des produits de ces pays-là sur le marché européen, sans droit de douane. Et il s'avérait que ces accords n'étaient pas compatibles avec les règles de l'OMC. Parce que l'OMC demande à ce que si vous accordez des avantages à un pays, il est aussi évident que ces mêmes avantages soient accordés aux autres membres de l'OMC. Alors que entre l'Union européenne et les pays de l'Afrique, du Caraïbe, du Pacifique n'étaient pas compatibles avec les règles de l'OMC. Donc c'était comme si on était un peu dans l'illégalité selon les règles de l'OMC. Donc pour corriger cela, on a décidé de mettre en place des accords de partenariat économique entre l'Union européenne et les pays africains. Puisque l'OMC autorise que des pays qui sont dans des groupes régionaux puissent accorder des avantages. Donc c'est dans ce sens que ces APE ont eu lieu. Et il s'avère que les avantages dont nous bénéficions avant les APE doivent disparaître pour que nous puissions avoir de nouveaux accords de telle sorte que nos biens puissent entrer sur le marché européen librement et que les produits européens aussi puissent avoir accès à nos marchés de façon libre.
Nous pourrons exporter donc sur l'espace européen sans droit de douane, vice-versa. Donc les produits européens aussi se retrouveront sur le territoire ivoirien sans droit de douane, c'est cela?
Effectivement.
Alors, quelles sont les conséquences pour d'abord l'économie ivoirienne et partant pour la zone européenne?
Oui, vu que du point de vue de la compétitivité, nos produits sont moins compétitifs vis-à-vis des produits européens. Donc, le danger, c'est que nos entreprises disparaissent. Parce que lorsqu'un bien plus compétitif entrera sur le marché ivoirien, il va sans dire que nos produits ne pourront pas faire face à la concurrence. Donc, voici un peu le risque. Si nous avons aussi l'accès à ces marchés européens et si nous ne signons pas ces accords, c'est comme si nous nous interdisons l'accès à ces marchés.
Alors, justement, vous notiez donc des opportunités pour certaines entreprises ivoiriennes. Quels pourraient être donc les avantages, justement, de l'ouverture du marché européen pour les entreprises ivoiriennes?
L'ouverture, déjà, c'est de nous permettre de continuer d'exporter sur ces marchés, parce que si ces accords n'étaient pas signés, nous ne pouvons plus exporter sur ces marchés-là. Donc, avec la mise en œuvre de cet accord, nous pouvons continuer d'exporter sur ces marchés. Et aussi, en échangeant aussi, pouvoir acquérir la technologie de ces pays, pour pouvoir aussi nous améliorer et faire face à la concurrence, parce que ces pays imposent des normes pour accéder à leur marché. Donc, nous serons amenés à améliorer nos processus de production, à obtenir des biens de meilleure qualité, et aussi offrir à nos populations même des produits de qualité, et aussi pouvoir exporter sur ces ces marchés européens.
Alors, vous parlez de normes, est-ce que ce n'est pas aussi une manière détournée hein, pour ces pays de restreindre hein, l'accès à ces marchés? Et si nous parlons donc d'un accès sans problème donc sur les marchés, pourquoi imposer des normes pour avoir accès à ces marchés?
Oui, c'est ce qui est appelé la protection non tarifaire, puisque les règles de l'OMC nous amènent à supprimer tout ce qui est barrière tarifaire. Ces normes-là empêchent plus ou moins nos biens d'accéder à ce marché. Et comme l'a été dit, d'ici 2024, si notre cacao n'est pas durable, il sera exporté sur le marché européen. Donc, plus ou moins, bien que ce soit des normes, mais pour certains produits pour lesquels les pays européens ne sont pas des producteurs, quand nous prenons par exemple le cacao, ils ne sont pas producteurs de cacao, mais en mettant une norme sur le cacao durable, ce n'est pas forcément pour nous empêcher d'accéder à la marché, mais c'est pour nous amener à avoir des producteurs de meilleure qualité.
Et il est de plus en plus question, hein, pour parler du cacao et bien d'autres produits agricoles, hein, de vérifier que si ces produits-là ne sont pas facteurs de déforestation. Est-ce que tout cela n'est pas une manière aussi hein, donc, de restreindre ces marchés-là à ces produits africains, notamment ivoiriens?
Ces pays imposent des normes sur ces produits parce que leurs consommateurs sont exigeants. Ils souhaitent avoir une certaine traçabilité. Parce qu'en Europe, il y a certains produits phyto qui sont interdits sur le marché, alors que chez nous, ces produits continuent d'être utilisés. Et les associations de consommateurs dans ces pays sont tellement regardants et ont un certain pouvoir qui amènent ces pays à prendre certains normes. Par contre, pour certains produits manufacturiers, qui constituent des concurrents pour les produits produits dans ces pays européens. Effectivement, la mise en place de ces normes contribue à limiter plus ou moins l'accès à ce marché-là.
Docteur Germain Cramo, je vous remercie.
Merci, monsieur.
Docteur Germain Cramo, enseignant en économie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, était l'invité de la rédaction de ce jour. Il était interrogé par Jean-Claude Comé, ce qui met un terme à cette édition, le rappel de l'essentiel. Promotion des droits de l'homme, 75 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme, quel bilan des droits humains en Afrique? C'est le thème d'un colloque international sur les droits de l'homme qui va se tenir les 8 et 9 décembre prochains à Abidjan. Hors de Côte d'Ivoire, la Mauritanie et le Tchad ouvrent la voie à la dissolution de l'alliance antiterroriste G5 Sahel. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité 15h. Mais avant, place à Jean-Claude Comé pour la revue de presse. Bon début d'après-midi à toutes et à tous.
Bonjour à tous. L'actualité.